talmudique. Il y a des mots qui font rêver, même si on n'en connaît pas exactement la signification, ou peut-être justement à cause de cette inconnaissance. C'est le cas du mot « utopie » forgé par Thomas More en 1516. « Utopia » est le titre de son ouvrage. « Utopia » est le nom d'une île située en aucun lieu. Avec ce « u » privatif, « utopos » signifie « sans lieu ». Cette négation est ambiguë, nous dit une notice lexicale de la Bibliothèque nationale. Faut-il entendre que cette île dont le gouvernement idéal règne sur un peuple heureux est imaginaire, inédite ou encore impossible ? Cette question brûle depuis 5 siècles et la lumière de son feu oriente encore de nombreux penseurs du politique et de nombreux écrivains. Car il faut le préciser et sans doute insister, l'utopie se caractérise souvent par un recours à la fiction, par un artifice littéraire qui consiste à décrire une société idéale dans une géographie imaginaire et dans de nombreux cas dans le cadre d'un récit de voyage purement romanesque. Mais, comme le souligne cette même notice, imaginaire ou fictif ne veut pas dire impossible. Tout rêve n'est pas une chimère. Et l'un des hommes qui, au début du XXe siècle, a participé de façon majeure à modifier le paysage politique mondial, en avait une conscience claire. Il a témoigné par l'écriture de 2 livres dont l'importance n'a pas toujours été mesurée à sa juste valeur. Je pense ici à Theodor Herzl qui joua l'immense rôle que nous lui connaissons dans la naissance, le développement et la concrétisation du sionisme. Theodor Herzl qui fut l'auteur non seulement de l'État des Juifs, Der Judenstaat en allemand, mais aussi d'un autre livre moins connu, Altneuland, traduit en français par « Nouveau pays ancien » ou « Terre ancienne »,« Terre nouvelle ». Un essai théorique et un roman. Un seul livre aurait pu suffire pour exposer son utopie sioniste. Mais, comme l'avait montré Thomas More lui-même, il fallait avoir recours pour construire une utopie à un ouvrage de double dimension, à la fois théorique et de fiction. Car le sionisme appartient bien à l'histoire générale des utopies, comme le souligne l'article de Denis Charbit dans « L'Atlas des utopies » publié par Le Monde et La Vie en 2017, qui commence par cette question essentielle « Et si malgré les apparences et les partis pris, on persistait à lire l'histoire du sionisme à travers le prisme de l'utopie ?» Denis Charbit, qui a choisi d'approfondir ce questionnement dans un livre qu'il vient de faire paraître aux éditions de l'Éclat, un ouvrage précisément intitulé « Retour à Altneuland, la traversée des utopies sionistes ». Bonjour Denis Charbit.
Bonjour Marc-Alain Gvaknin.
Denis Charbit, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Open Université d'Israël à Ra'anana et spécialiste du sionisme et des intellectuels français de l'affaire Dreyfus jusqu'à nos jours, sujets sur lesquels vous avez publié de nombreux ouvrages. Avant de nous interroger sur les liens du sionisme et de l'utopie et ausculter de plus près les 2 livres de Herzl que j'ai évoqués, rappelons brièvement qui est Herzl, l'homme d'action, le penseur, l'écrivain et le dramaturge. Denis Charbit.
Herzl est justement les 4 à la fois. Et on a tendance justement, quand on fait sa biographie, il y a beaucoup de biographies de Theodor Herzl, de séparer, de sectionner, de dire il a d'abord été un juriste, ensuite il a été un dramaturge, ensuite il est devenu un homme d'action, un homme d'organisation à la tête du mentionniste, et puis sa vie s'est terminée. Or, je pense que c'est se tromper d'abord sur les déroulements même de sa vie, car tout le temps, et c'est pas longtemps, c'est pendant 9 ans qu'il va être sioniste, puis qu'il meurt assez tôt en 1904, et bien, en parallèle de son activité politique et diplomatique, il va continuer d'écrire des pièces de théâtre, il va continuer d'écrire un roman utopique tel que Altneuland, et donc effectivement c'est cette circulation entre ces 4 visages, entre ces 4 facettes qu'il me semblait important de restituer, et précisément par rapport à l'État des Juifs et Altneuland, c'est vrai que de manière générale les penseurs de l'utopie, les spécialistes de l'utopie ignorent Altneuland, très rarement le citent, les spécialistes du sionisme ne s'intéressent pas à Altneuland parce que c'est un roman un peu ennuyeux, etc. Ils n'en retiennent que l'État des Juifs. Et moi, j'ai essayé de le concevoir et d'analyser les 2 œuvres comme un diptyque. L'un est indispensable et d'autant plus indispensable que, initialement, Herzl s'est posé la question, par quoi je commence? Est-ce que je commence par une utopie ou est-ce que je commence par un programme? Alphonse Daudet lui avait dit qu'il connaissait puisqu'il était correspondant en 1994 à Paris, lui suggère, regardez l'importance qu'a été la casse de l'oncle Tom pour la cause de la fin de l'esclavage. Énorme, donc écrivez un roman. Et puis il dit non, il faut d'abord montrer que c'est quelque chose de possible, quelque chose de réel. Mais voilà, 7 ans après, et encore la rédaction du roman est postérieure de quelques années après l'État des Juifs, il revient au roman utopique et c'est Altneuland.
Donc deux livres, vous venez de le dire, L'état des Juifs à Neuland. La critique n'a pas accueilli ces deux livres avec le même égard, et l'on peut même dire qu'elle ne fut pas tendre avec le second. Quelle était l'intrigue de ce roman et pourquoi ces critiques? Sur quoi porte-t-elle, Denis Charbit?
Alors l'intrigue du roman, c'est effectivement, il est structuré comme doit l'être un roman utopique, c'est-à-dire qu'il y a toujours une première partie qui montre l'obscurité, le monde d'avant, le livre noir. Alors là, en l'occurrence, de la condition juive en diaspora, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, cette partie, je la trouve remarquable parce qu'il y a une sorte de vision comme ça décadente de la diaspora dans toutes ces classes populaires comme les plus nantis. Et puis, bien entendu, succède une seconde partie puisque c'est ainsi qu'est structuré un roman utopique. Et cette seconde partie, eh bien, elle va nous décrire la nouvelle société. Alors l'artifice, c'est quoi? C'est un Allemand, un noble naturalisé américain qui va prendre comme aide un jeune juif qui après une histoire amoureuse tragique, dramatique, et porté au suicide jusqu'au moment où il lit cette annonce, et il le suit, il passe en Palestine dans leur expédition, dans leur traversée, et puis il voit quelque chose de crasseux, pouilleux, archaïque, etc. Et puis ils vont vers des îles lointaines, inconnues, l'Eldorado, on voit la référence aux utopies en général, et puis 50 ans après, ils reviennent, et avant d'arriver en Allemagne, en Autriche-Hongrie, ils passent de nouveau par la Palestine, et là, c'est 50 ans après, c'est la nouvelle société, et voilà, les deux, le jeune juif, et son patron, en quelque sorte, celui qui l'emploie, cet obro germano-américain, eh bien, sont enthousiasmés par ces réalisations que décrit Altneuland. Alors, les critiques, alors c'est ça qui est étrange, c'est-à-dire que le livret programme L'état des Juifs a suscité beaucoup d'intérêt, et on sait le sort qu'il a. Et pour moi, c'est un paradoxe, parce que ça y est, le programme il est fait, l'État juif il existe, il s'appelle l'État d'Israël. C'est Altneuland qui reste encore à créer, qui reste encore à faire advenir. Et c'est pour ça que je réhabilite en quelque sorte l'importance d'Altneuland, parce que là, il reste encore devant nous, et il restera devant nous pour ainsi dire jusqu'à la fin des temps. Et les critiques qu'il va susciter, alors elles sont de différents ordres, mais la vraie querelle qui a surpris, il faut bien dire Herzl, c'est celle qui lui vient de son adversaire au sein du sionisme qui s'appelle Ahad Ha'am, c'est un pseudonyme, Asher Ginsberg est son vrai nom, et qui a une autre idée du sionisme que celle que défend Herzl, c'est-à-dire un sionisme politique et un sionisme diplomatique. Lui, il a une vision du sionisme culturel, et la vision qu'il donne de cette nouvelle société, de cet état des juifs, eh bien lui inspire beaucoup de répulsion. Il la trouve pas assez juive, il trouve que c'est une sorte, voilà, en gros, je dirais, Herzl l'a conçu comme une arche de Noé, et Ahad Ha'am, il voit une tour de Babel. Ahad Ha'am s'est toujours posé comme le réaliste. Il dit, par exemple, il y a un personnage arabe, tout s'arrange avec lui, tout va très bien. Non, il y aura certainement beaucoup plus de problèmes, vous verrez un jour, les contradictions vont éclater, et ça, vous les balayez avec un regard utopique. Vous dites, tous les juifs vont arriver, etc. Mais c'est pas ça le but de l'État des Juifs. C'est d'être une sorte de laboratoire, il parle de centre culturel, une vitrine du judaïsme rénové pour permettre aux diasporas qui vont continuer d'exister d'être cette force de rayonnement. Donc voilà, c'est leur conception qui s'oppose au travers de leur lecture différente, bien évidemment, d'Altneuland.
C'est-à-dire qu'on peut opposer en fait une sorte de sionisme centrifuge et un sionisme centripète, c'est-à-dire pour Herzl, tous les juifs vont aller sur la terre d'Israël, donc on a ce sionisme centripète, alors que pour Ahad Ha'am, cette culture dans le laboratoire qu'est Israël va essaimer dans la diaspora. C'est-à-dire que c'est un judaïsme avec une diaspora, c'est une terre d'Israël avec l'importance d'une diaspora. Et je crois que pour Ahad Ha'am, il y avait aussi l'importance de l'université au centre même de sa vision.
Tout à fait. Il avait une vision, on va dire, à la fois intellectuelle, à la fois pratique également. Il disait, il faut qu'il y ait des paysans, etc. Mais, et là, c'est très intéressant sur le plan même du débat. Leur grand différent, il porte sur l'antisémitisme. Herzl pense que c'est définitif, ce sera jusqu'à la fin des temps, et c'est pour ça qu'il faut fuir et qu'il prône un sionisme de l'urgence. Là où Ahad Ha'am dit, l'antisémitisme va passer, il va avoir des phases régressives et des phases ascendantes. Le vrai phénomène catastrophique pour le peuple juif, c'est l'assimilation. Culturellement, les cultures hégémoniques vont emporter ce judaïsme-là, d'autant qu'on est à l'ère du scientisme, du positivisme, et que la religion n'est plus le ciment fédérateur. Et il dit, le sionisme, le fameux centre culturel, c'est ce qui va permettre aux diasporas de maintenir un lien, parce qu'on parlera en hébreu. Alors ils s'offusquent que l'Ethnolande, on ne parle pas hébreu, et c'est donc effectivement l'université, c'est à la fois le savoir, mais également le travail de la terre. Et il dit, le processus doit être un processus lent. Il dit, penser que la terre d'Israël va résoudre la question sociale et matérielle du peuple juif, mais c'est de la chimère, c'est de l'utopie. La fonction, et elle est déjà utopique en tant que telle, c'est d'être un centre de rayonnement de ce que doit être le judaïsme renaissant pour l'ensemble des diasporas qui persisteront à se maintenir. Voyez,
et l'histoire, d'une certaine manière, a donné raison à Khaddam, si l'on peut dire.
Oui, d'une certaine manière, je dirais aux uns et aux autres. Moi, je dirais aux deux. Oui. Parce que Israël s'est fait avec quoi? Là, on parle à l'État d'Israël. Il s'est fait avec les Juifs qui ont été persécutés, qui ont été marginalisés dans les sociétés où ils se trouvaient. Il s'est pas fait avec les Juifs des États-Unis, il s'est pas fait avec les Juifs de France ou de Grande-Bretagne, mais avec les Juifs des pays d'Orient, avec les Juifs de l'Allemagne nazie, avec les Juifs de Russie, de Pologne, d'Éthiopie encore récemment. Ça, c'est un premier pôle. Mais d'un autre deuxième pôle, c'est vrai que dans la mesure où même en Israël, on a, pour ainsi dire, renoncer à l'idée qu'un jour tous les Juifs seraient rassemblés, ne serait-ce qu'à cause de l'exiguïté du territoire, eh bien, il faut être ce pôle d'attraction, ce centre de dynamisme, de créativité culturelle, économique, etc.
Pas d'attraction, mais d'attraction et de diffusion.
Et de diffusion, effectivement.
Avec l'importance, et vous le soulignez, je crois que c'est fondamental, du langage, de la langue hébraïque.
Effectivement, pour Khaddam, c'était capital. C'était ça qu'il fallait d'abord. C'était ça, le moteur de la renaissance juive. Là où, dans l'État des Juifs, Herzl s'interroge, il dit, mais on ne sait même pas acheter un billet de train en hébreu, alors comment on va pouvoir en faire une langue pour tous?
Et il pensait que la nouvelle terre serait le lieu de personnes qui parlent allemand.
Effectivement, c'est comme ça que l'on le voit dans la représentation, et c'est ce qu'il dit également dans l'État des Juifs. Là, les deux livres font couple, et là, de ce point de vue-là, l'utopie de la renaissance de la langue hébraïque, là, c'est Khaddam, incontestablement, qui l'emporte. Donc, comme quoi, le bilan est, je dirais, mitigé. Le sionisme s'est fait avec les Juifs persécutés, mais dans cette perspective culturelle qu'a Khaddam annonçait.
Alors, au début de l'émission, j'ai dit que le livre était traduit par Nouveau Pays Ancien ou Terre Ancienne, Terre Nouvelle, en allemand Alt Neuland. C'est un seul mot. Dans votre livre, vous arrêtez sur l'histoire de la traduction du titre de ce livre, ce qui semble fondamental au cœur de la question de l'utopie qui nous intéresse ici, Denis Charbit.
Oui, effectivement. Alors d'abord, il faut savoir que la première référence que Herzl a dû avoir en tête, c'est la fameuse Alt Neuschule de la synagogue de Prague, la synagogue ancienne nouvelle. Donc on pense que c'est ça qui l'a inspiré, mais je pense qu'au-delà de cette référence ou cette révérence à la synagogue, c'est effectivement ce sentiment qu'il a parfaitement bien compris et intériorisé que cette affaire du sionisme, c'est bien sûr un projet moderne. Le sous-titre de l'État des Juifs, c'est solution moderne à la question juive, mais on travaille et on fabrique avec de l'ancien, et que ces deux éléments d'ancien et de nouveau, et sionisme, si on réfléchit au mot, sion, bah, c'est la référence, n'est-ce pas, à la terre d'Israël, isme, bah, c'est les idéologies modernes. Voilà, on n'en sortira pas de ce diptyque-là entre l'ancien et le nouveau. Et ce qui est remarquable, effectivement, moi j'étais fasciné par cela, c'est quand on a cherché à le traduire en hébreu assez vite, c'est Nahum Sokolov, un dirigeant sioniste, qui essaye au départ de traduire littéralement, et puis il voit que ça va pas, ça sonne pas très bien, et puis il n'y a pas cette brièveté de trois syllabes, Alt Neuland. Et c'est là qu'il a cette idée, mais je trouve géniale, de donner pour traduire Alt Neuland en hébreu ce terme de Tel Aviv. Alors Tel Aviv, on dit mais Tel Aviv c'est la colline du printemps, mais c'est une fausse traduction. Un tel, c'est une colline artificielle qui s'est établie par les différentes traces archéologiques d'une ville du Proche-Orient. Donc il y a cette idée du passé, le tel, et Aviv c'est le printemps, la Renaissance. Et alors en plus, Tel Aviv est mentionné dans les prophéties d'Ézéchiel, mais et alors en plus comme une ville un peu d'affliction et de déperdition, ce qui jure avec le caractère de Tel Aviv plutôt festif aujourd'hui. Mais là, on a un exemple absolument extraordinaire où c'est le nom d'un livre qui va donner naissance au nom d'une ville. On connaît des romans qui s'appellent Paris, un roman de Zola qui s'appelle Paris, mais voilà, la ville préexiste au roman. Là, c'est le roman qui donne le nom à la ville. Et je trouve que dans cette symbolique-là, entre et alors en plus, ça respectait le Tel Aviv, c'est-à-dire les trois syllabes. Comme Alt Neuland, voilà, c'est ça.
Rappelait cette idée fondamentale qu'on trouve tout au long de l'histoire du judaïsme, d'un rapport essentiel entre le livre et la ville, puisque la ville de Jérusalem, à partir de sa destruction, va devenir le livre lui-même, c'est-à-dire le Talmud dans lequel on va étudier. Donc là, on a le mouvement inverse, c'est-à-dire que, comme disait Kafka, ma patrie, le livre, on sent bien dans cette traduction, cet aller-retour, cette dialectique fondamentale entre le livre et la ville.
My healed child is doomed. Transformed into a gate where I receive love from.
L'axe majeur de votre réflexion, Denis Charvit, est de montrer les liens d'Herzl et du sionisme avec l'utopie. Nous sommes accompagnés ici par la musique de Björk, The Gate, La Porte, un des morceaux de son dernier album intitulé précisément Utopia, titre qui souligne à quel point cette problématique de l'utopie est une préoccupation de l'heure. Pour Herzl, le mot utopie n'était pas synonyme d'impossible, ce qu'il souligne par la phrase mise en exergue sur la couverture de Altneuland. Il dit en allemand « Wenn ihr wollt, ist es kein Märchen », si vous le voulez, ce ne sera pas une légende. Ces idées vont en effet se réaliser, à commencer par les utopies communautaires et libertaires des kibbutzim. Nous en avons parlé dans les deux émissions précédentes, mais vous insistez sur plusieurs autres utopies. Vous parlez tout d'abord de l'utopie de l'homme nouveau hébreu et des utopies artistiques et culturelles. Par quoi se manifestent ces utopies, Denis Charvit ?
Alors, elles se manifestent d'abord par le sentiment que si effectivement le sionisme, c'est d'abord l'accès aux politiques, eh bien, comme si on pressentait qu'il y avait dans cette seule expression politique quelque chose d'un petit peu limité, que cette révolution-là, elle est tellement immense qu'elle ne peut pas se limiter à un refuge pour des Juifs. Non pas que ce soit un projet humanitaire de grande envergure et qui a réussi, mais voilà, il faut quelque chose d'autre. Alors, c'est le retour à l'hébreu, bien évidemment, c'est le retour à la terre et au double sens du terme. On retourne en terre d'Israël, mais on retourne à la terre parce que, voilà, on laisse tomber un petit peu les professions intellectuelles, les professions techniques et industrielles pour, et même prolétaires pour devenir retrouver le contact de la terre, hein, de revenir des paysans cultivés, poètes. Et puis, c'est donc cette idée, parce qu'on est quand même, voilà, dans le siècle, dans le 19e et dans le 20e siècle, on ne fait pas de révolution, là, c'est la France, hein, on ne fait pas de révolution si on ne fait pas un homme nouveau, un calendrier nouveau. Et là, ça va se traduire, alors, dans de multiples expressions, parce que ces Juifs qui arrivent, ben, ils ont un rêve, mais en fait, c'est Amos Oz qui disait très joliment une fédération de rêves. Chacun vient avec le sien, et alors donc du coup on va trouver des utopies d'hommes nouveaux, alors socialistes effectivement, des hommes racés, des hommes voilà, qui vont, le judaïsme des muscles cher à Max Nordau, il faut qu'on soit fort physiquement. On va trouver également chez Jabotinsky cette idée de cette nouvelle race juive qui va naître, et puis on va trouver également des utopies religieuses, et des utopies, alors religieuses à la fois qui sont une sorte de balancement entre pas un retour à la pratique et à la foi pour se débarrasser de la culture et de l'Occident, mais pour essayer de créer une synthèse avec la culture orientale.
Alors là, on va y venir, mais dans la dimension culturelle, je pensais peut-être à la musique, à la peinture. Est-ce que c'est à ce moment-là que va être créée l'école des beaux-arts Bezalel?
Exactement, c'est la belle utopie artistique des années, dès la Première Guerre mondiale et surtout après la Première Guerre mondiale, donc quand le Yishuv va pouvoir commencer à déployer son dynamisme et son énergie créatrice, bah, c'est aussi la création d'un centre littéraire. C'est très drôle parce que je crois que c'est Franz Rosenzweig qui se moque un petit peu, il se dit mais il s'extasie devant un menu en hébreu. Alors bien sûr un menu de restaurant en hébreu, c'est vrai que ça fait un petit peu risible, mais c'est un théâtre en hébreu, ce sera plus tard un cinéma en hébreu, ce sera une presse juive. Alors ça existait déjà au 19e siècle, mais là, et puis c'est l'hébreu qui va devenir la langue maternelle et pas simplement une langue acquise, une langue d'étude ou une langue de prière. C'est vrai que et puis je dis aussi d'ailleurs, on n'arrive pas dans un territoire qui est très urbanisé. Tel Aviv sera en quelque sorte la première tentative. C'est des paysages comme ça de création du monde. Alors je me dis, quand on arrive dans des paysages pareils, au-dessus du lac de Tibériade, bien entendu qu'on se dit, et puis qu'il n'y a pas beaucoup de monde. C'est pas une terre vierge, c'est pas une terre désolée, c'est pas une terre sans personne et sans peuple, comme l'avait dit Zangwill, mais il n'y a pas beaucoup de monde, la densité n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Et donc, du coup, on se dit, quand on arrive dans des contrées qui restent quand même assez désolées, avec un soleil qui tape dur, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire à part travailler la terre, sinon recréer une nouvelle société? Alors là, effectivement, l'utopie du kibbutz. On va créer des nouveaux rapports sociaux. Et moi, je trouve ça magnifique, et je dirais presque que c'est dans ce sionisme-là que je me reconnais le mieux. C'est-à-dire, c'est pas simplement, on va sauver notre peau, ce qui est essentiel. Et si je peux le dire en hébreu, c'est pas, imen anili mili. Si je ne suis pas pour moi, qui le sera? C'est aussi, et si je ne suis que pour moi, alors que suis-je? Alors on va inventer un nouveau modèle. Buber va parler de Jérusalem comme une alternative à Berlin, à Moscou, à Rome, à New York, c'est-à-dire une nouvelle manière de concevoir le monde. Et ça, je trouve que, alors là, bien entendu que je pense que la Bible y est pour quelque chose et le judaïsme y est pour quelque chose. Quand le judaïsme a cette ambition de dire à l'humanité, regardez ce modèle-là, comment des sionistes, même s'ils sont un petit peu déjudaïsés, mais pas complètement oubliés de la tradition juive, comment ne dirait-il pas, cette société que l'on va ériger, eh bien, il faut qu'elle soit un modèle, une lumière pour les nations.
J'aime votre enthousiasme. Et en vous écoutant, je me disais peut-être que, alors, tout est alt, neu, tout est à la fois ancien et nouveau, mais on le ressent peut-être encore de manière plus forte, de manière plus aiguë dans la langue hébraïque, qui a été là le rêve, l'utopie, on peut dire, d'Eliezer Ben Yehuda, c'est-à-dire de reprendre une langue qui n'était plus parlée depuis presque 2000 ans, qui était restée une langue liturgique et qui tout à coup va redevenir cette langue parlée, parce qu'il faut bien distinguer entre un projet et une utopie. Votre livre s'appelle « La traversée des utopies sionistes ». On aurait pu appeler ça « La traversée du projet ou des projets sionistes ». Quelle différence entre un projet et une utopie?
Alors, merci de cette question, parce que c'est vrai que ce qui m'a tenu à cœur, c'est d'une certaine manière de réhabiliter l'utopie en tant que telle. Alors, vous savez, Miguel Amassour, qui a été le grand spécialiste de l'utopie, avait écrit un article « Peut-on écrire des utopies après Auschwitz ?» Mais là, on est dans une période antérieure et je pense qu'il est très important dans des temps difficiles comme les nôtres, où on est, je dirais, obsédé par le rendement, obsédé par le réel, de comprendre que le rêve nourrit l'action et que l'action emprunte au rêve. Alors je sais bien, il y a des rêves mortifères, il y a des utopies meurtrières, mais elles peuvent être aussi, ces utopies, des guides, des principes. Alors il ne s'agit pas de réaliser comme du papier à musique exactement un projet, c'est là où ça deviendrait dangereux. Il faut garder cette marge d'inachevé, et je dirais que c'est ce que j'aime d'ailleurs dans Altneuland, tout n'est pas exactement comme il faudrait. Il y a de l'inachèvement, il y a de l'ouverture, mais en même temps, ne négligeons pas cette part de rêve, parce que c'est quand il y a cette inspiration-là que on tend vers un but qui n'est pas uniquement de l'ordre de l'immédiat, qu'on donne des orientations. Alors la voie est peut-être tortueuse, on peut s'en écarter, il peut y avoir des digressions. Moi je dis dans le livre, j'aime bien cette expression, j'étais heureux de cette expression, l'utopie est l'école missionnaire du sionisme. Voilà, c'est-à-dire que c'est les sentiers parallèles. Voilà, avec ça on fait pas un État d'Israël, avec ça on fait pas un État juif. On n'aurait pas fait l'État juif avec Buber. Il faut Ben Gurion pour cela. Ben Gurion qui a préfacé l'État des Juifs dans les années 50, mais qui n'a rien dit sur Altneuland, parce que ils sont dans l'immédiat et dans le quotidien. Mais et l'homme a besoin de cette préoccupation immédiate et quotidienne. Et mais s'il n'y a pas cette part de rêve, alors pourquoi Israël ?
Il y a cette utopie, ces utopies culturelles dont vous venez de parler, mais à un certain moment, il y a eu aussi des utopies spirituelles et religieuses. Vous avez déjà cité plusieurs fois Buber, mais il y a un personnage qu'on connaît moins qui est Bergman, qui était un condisciple. Il était assis à côté, au lycée, à côté de Kafka. Et arrivé en Israël, il s'est dit, si on enlève toute spiritualité, le pays ne pourra pas exister. Qui est ce Bergman et quelle est sa pensée et la proximité qu'il avait avec la spiritualité de Buber, Denis Charbit?
Alors, il était très proche de Buber. C'est un spécialiste de Kant. Hein. Il a enseigné la philosophie. Il a été le directeur de la Bibliothèque nationale à Jérusalem. Il a été un grand professeur de philosophie donc à l'université hébraïque. Mais il était justement au carrefour à la fois de cette pensée des lumières rationnelles, mais dont il éprouvait également les limites, et donc il rejoint en quelque sorte cet existentialisme religieux qui a fait fortune, et pas uniquement dans le monde juif, mais également dans le monde chrétien. Et lui, ce qu'il a particulièrement animé dans les années 20, les années 30, on parle de l'entre-deux-guerres, même s'il est mort en 1965, hein, donc bien après la création de l'État d'Israël, ce qu'il a particulièrement animé, c'est cette idée de l'État binational, et qui était nourri non pas uniquement par un projet politique, mais par quelque chose de spirituel entre l'islam et le judaïsme. Et il avait cette phrase, alors je vais la prononcer, des gens les auditeurs vont tomber des nues. Il disait, c'est une bénédiction qu'il y ait eu des Arabes en Palestine. Et alors, on va dire, c'est la source de tous les problèmes. Et les Palestiniens pensent que leur malheur commence avec le fait que les Juifs soient venus. Et les Juifs disent, ah, si les Arabes n'étaient pas là, etc. Et lui, il vient dire, c'est une bénédiction parce que ça va nous mettre à l'épreuve. Voilà. Parce que cette éthique juive, et alors là, je viens à la dimension spirituelle que vous évoquez dans votre question. Il dit, cette éthique juive, alors on la réalise au niveau individuel. On la réalise au niveau communautaire. Dans sa synagogue, on donne fait la charité pour les pauvres de la communauté, etc. Mais et au niveau collectif, quelle est la valeur et l'impact de cette idée d'un État juif? Et il ne prononçait pas souvent la notion d'État parce que l'État, ça lui semblait un monstre froid, etc. Mais de cette communauté-là qui s'organise en Palestine, si ce n'est pas recréer des liens fraternels, non seulement entre les Juifs, mais également entre les enfants d'Isaac et les enfants d'Ismaël. Et je dirais que, voilà, pour lui, c'était trouver les moyens de dépasser, ça c'est essentiel, de trouver une fraternité, une communauté qui ne passe pas par la subordination d'une culture à une autre. C'est-à-dire, les Juifs resteront des Juifs, les musulmans resteront des musulmans, et d'une certaine manière, et c'est en ça qu'il était très proche de Buber, c'est-à-dire c'est cette relation entre le je et le tu, Dieu se situe ici quelque part. Et il se méfiait effectivement d'une sécularisation excessive, alors pas la déperdition de la pratique religieuse, mais de la perte de cette quête-là spirituelle qui l'animait.
On rejoint la Gemeinschaft, la communauté de Buber que nous avons évoqué la semaine dernière avec Dominique Bourrel, et je crois que vous répondez en même temps, parce que vous venez de dire, à ce qu'est l'État binational. Je me pose toujours la question, parce que depuis le retour à Sion, qui est le fondement du sionisme, et quelles que soient les divergences de tous les sionismes, se pose la question des relations avec les Arabes de cette région de la Palestine, d'abord ottomane puis mandataire. C'est là que nous questionne une autre utopie dont l'actualité se rappelle à nous tous les jours, l'utopie binationale. Comment comprendre cette formule au-delà de ce que vient de dire Hugo Bergman?
Oui. Alors, d'abord, c'est très important de bien faire la différence. Alors que le projet d'État binational dont on parle ces derniers temps est voulu par, je dirais, des personnes, des penseurs, des théoriciens qui veulent surmonter, qui veulent faire l'économie du judaïsme et du peuple juif et de la nation juive, etc., et du sionisme, là, il faut bien comprendre qu'on parle, avec Buber, avec Hugo Bergman et d'autres, d'un État binational à cause du sionisme ou grâce au sionisme. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui vient faire rupture avec lui, vient dire, là, il faut se débarrasser de ce sionisme-là, alors on va inventer cette utopie d'État binational. C'est quelque chose qui naît, alors d'une conception du politique qui est fondée, qui est, je dirais, une conception politique anti-Machiavel, c'est-à-dire non pas une politique de la domination, non pas une politique de la ruse, du stratagème, de voilà, mais une politique de l'amitié, une politique de la fraternité. Et ça passe effectivement par l'effacement des structures de domination politique étatique et l'invention d'une communauté où les gens ne seraient pas, et là combien c'est actuel, où les personnes ne seraient pas menacées dans leurs identités. Le dernier discours, un discours refondateur du président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, a parlé des 4 tribus d'Israël, les Arabes d'Israël, les Juifs orthodoxes, les sionistes religieux et les laïcs. Et il dit, il faut inventer un vivre ensemble entre ces 4 familles qui ne disparaîtront pas et qui ne veulent pas se sentir menacées dans leur identité. Donc de ce point de vue-là, il y avait quelque chose de très... Alors c'est une sorte de... Alors voilà, je dirais, c'est une sorte de nationalisme civique, mais différente de celle qu'on entend en général par là, qui suppose finalement la fusion de minorités dans un tronc culturel hégémonique. Là, non. Chacun conserve son identité propre. Tout le monde la protège. Mais en même temps, on doit trouver les moyens de surmonter ces différences et de refaire le lien social.
Merci Denis Charbit pour cette belle conversation que je vous propose de poursuivre la semaine prochaine. En attendant, je rappelle le titre de votre ouvrage, passionnant et d'une grande clarté, Retour à Altneuland, la traversée des utopies sionistes, paru aux éditions de l'Éclat. Merci encore Denis Charbit.
Merci Marc-Alain Wachnin.
C'était Talmudique, une émission de Marc-Alain Wachnin et Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Claire Levasseur, à la réalisation d'Annie Journeau. Vous retrouvez toutes les indications biographiques et bibliographiques de notre invité sur le site de l'émission. Coltouv, l'œil traote, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.